RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, en France, le grand débat national touche à sa fin. Aujourd'hui, quatrième volet de notre série consacrée aux services publics. La justice, souvent décriée par les Français. Un service public méconnu et pourtant en première ligne dans la vie quotidienne des citoyens pour arbitrer des conflits familiaux ou répondre aux délits du quotidien. Immersion dans un tribunal de grande instance, celui de Saint-Nazaire. Grand reportage, signé Franck Alexandre.
Saint-Nazaire, ses chantiers navals et sa côte atlantique, une agglomération de 300 000 habitants dont le nombre triple en été, et au cœur de cette ville reconstruite après-guerre s'élève un bâtiment épuré.
Bonjour.
Bonjour. Alors récupérez vos affaires et vous passez sur le côté, vous passez sur le portique.
D'accord.
Une fois franchi, le sas de sécurité Cécile Capot nous accueille au sein du tribunal de grande instance, le TGI qu'elle préside.
Au tribunal de grande instance, les semaines se succèdent mais ne se ressemblent bien sûr jamais. Alors il y a évidemment toutes les audiences qui sont prévues et programmées de longue date et qui sont organisées en amont. Et puis toutes les urgences qui vont être notamment du ressort du procureur s'agissant d'affaires pénales. Et comme vous allez pouvoir le voir, ce qui commence avec le procureur, avec les services d'enquête, aboutit la plupart du temps, quand il y a suffisamment d'éléments, devant un juge du siège, pour le juger, vous le verrez en audience correctionnelle un petit peu plus tard.
Un palais de justice fort de 7 magistrats du parquet et 18 juges, une juridiction de taille moyenne parmi les 161 tribunaux de grande instance de France. Et à l'instar de tous les palais de justice, tout commence à la permanence du parquet, un parquet placé sous la houlette de Sylvie Canovas, très énergique, procureur de Saint-Nazaire.
Tout le monde a passé pour ceux des bonnes vacances ?
Excellent.
Alors donc ici vous êtes dans la salle de permanence, un bureau qui accueille donc notre greffier, qui réceptionne donc les appels et qui va les diriger, les orienter, les séquencer auprès du magistrat qui est donc dans ce bureau. Et vous avez des chaises, les chaises confortables on va dire pour les collègues qui viennent discuter, et nous avons des chaises spéciales pour les prévenus que nous déférons ici à qui les magistrats, donc dans le cadre de la permanence, notifient les charges et vous assisterez à cela.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les chaises pour les prévenus ?
Elles sont de couleur verte.
En ce lundi matin, c'est l'heure du passage de relais. Joëlle Bonnert, magistrate du parquet, fait le point sur les dossiers du week-end.
Pas mal d'appels, pas mal de conduites sous l'empire d'un état alcoolique, des violences conjugales, des OQTF, donc des étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas pu être renvoyés au centre de rétention administrative faute de place. Et puis les mineurs en fugue, enfin un petit peu le tout venant.
Jean-François Herry, vice-procureur. Je suis nouvellement arrivé ici depuis le début de l'année 2019. Et je suis de permanence, effectivement, cette semaine jusqu'à vendredi à midi. Je dirais que la permanence, c'est un petit peu la tour de contrôle du parquet, quoi. Hein. C'est évidemment là qu'arrivent les appels téléphoniques, les comptes rendus, les enquêtes urgentes, et puis les gardes à vue qui sont en cours. En règle générale, à l'issue d'une garde à vue, la plupart du temps, on décide effectivement de la suite à donner, des poursuites.
Oui, allô ?
Oui, bonjour monsieur Eric, Irène Rossignol, commissariat de la Brouille.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur, vous appelez concernant la garde à vue de monsieur.
Dans la petite salle de permanence, les appels se succèdent. Commissariat et gendarmerie interpellent le procureur pour faire le point sur les gardes à vue en cours.
Et avec usage et menace d'une arme.
D'accord.
Des violences volontaires ont été commises la veille, l'auteur des faits a été interpellé, il sera déféré dans les heures qui suivent en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un plaidé coupable. Aux côtés du vice-procureur Jean-François Herry, Virginie Omaille, greffière, garde un œil constant sur les procédures.
Donc là, vous noircissez ce tableau avec...
Ouais, ça permet d'avoir une visibilité en fait sur les gardes à vue en cours. Comme ça, le magistrat, il sait toujours où il en est. D'abord le début de garde à vue, parce qu'il faut absolument... respecter le délai de 24 heures. Et comme ça, on garde un œil sur le tableau chronologique aussi des gardes à vue. Le nombre et surtout la durée de garde à vue.
Très bien.
Je vous laisse poursuivre et puis vous me tenez au courant.
Oui, je vous remercie, monsieur.
Merci à vous.
Un flot d'affaires incessant, car le parquet n'aime pas classer sans suite.
Non, rien n'est laissé de côté. Et c'est vrai que les parquets ont souvent un taux de poursuite qui est très élevé. et qui parfois même jugé par certains trop élevé, parce que c'est vrai qu'on, même si on a l'opportunité des poursuites, on a toujours le souci quand même de pas laisser de victimes sur le bord du chemin. On a quand même à cœur, même pour des infractions qui sont finalement assez bénignes, de prendre en compte leur situation, et c'est toute la difficulté, parce qu'il y a une masse qui est quand même très très importante, et il faut réussir à pouvoir prendre une décision sur tous les dossiers, ce qui n'est pas toujours simple.
L'individu qui s'est rendu coupable de violences volontaires apparaît alors sous la garde de policiers. Ils le font asseoir sur le fauteuil vert, celui destiné au prévenu, face au vice-procureur Jean-François Héry.
Asseyez-vous. Alors je me présente, on ne s'est pas encore rencontré. Jean-François Héry.
Précisément 24 heures auparavant, cet homme s'en est violemment pris à un conducteur âgé dont il estimait qu'il ne conduisait pas assez vite. Armé d'une batte de baseball, il l'a alors roué de coups.
Bon, monsieur, en tout cas, vous reconnaissez les faits. Hein. Alors, c'est des faits qui sont, je vous le dis, c'est des faits qui sont inadmissibles. On ne peut pas laisser faire ça.
Le procureur propose une peine d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Déjà condamné dans un autre dossier à une peine de 6 mois de prison ferme, l'individu part donc en détention. Un dernier échange avec son avocate Aurélie Fournard, qui lui promet de très vite saisir le juge d'application des peines pour trouver une alternative à la prison.
Finalement, c'est quand même une opportunité qui est à saisir pour la personne en question. Sinon, le risque, ce sont effectivement des peines plus sévères qui pourraient être prononcées.
Donc la personne dormira en prison ce soir?
Voilà, tout à fait. Et après, il y aura une demande d'aménagement de peine qui sera formulée. Donc la personne sera convoquée devant le juge d'application des peines pour étudier les modalités pratiques. Donc ça pourrait être un bracelet électronique ou ce genre de choses pour que la personne puisse continuer à se rendre sur son lieu de travail.
Le bracelet électronique, une mesure très répandue, mais qui, aux yeux d'Armel Dugardin, n'empêche pas la récidive. Cette très expérimentée juge d'application des peines préfère, dans le cadre d'alternatives à la détention, prononcer des peines de travail d'intérêt général.
C'est quand même absolument essentiel que le condamné qui a commis des délits assume les conséquences de ses actes. Puisqu'en matière de lisibilité, il comprendra qu'en commettant des délits, il doit payer à la société son denier, si je puis dire. Et si cela se fait par le biais d'une mesure qui va lui permettre également de se réinsérer, si on se réinsère, cela constitue également un excellent moyen pour prévenir la récidive, puisqu'il y aura une lisibilité de la réponse.
Une réponse pénale compréhensible par tous. Pourtant, dans les rues de Saint-Nazaire, les citoyens ont un regard plutôt critique sur la justice. Le doute plane quant à l'indépendance de l'institution.
Est-ce que le pouvoir politique n'a pas encore la main mise sur la justice? Surtout avec le mouvement des Gilets jaunes qu'on voit.
Si on est en bas de l'échelle, on est quand même moins bien servi que si on est en haut. C'est pas d'aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas demain.
Pour moi, une bonne justice, c'est une justice équitable, ce qui ne me semble pas actuellement le cas. La même justice pour tous. C'est aussi politique, tout ça.
Bon, moi, je suis navrée, toujours, d'entendre de tels propos.
Sylvie Canovas, procureure.
Ce qui est dommage, c'est que, et je peux l'entendre, moi, que le citoyen ne connaît pas le fonctionnement de la justice en réalité et que devraient être relayés davantage des mots un peu plus bienveillants à l'égard de la justice. En tout cas, vous entendez bien les magistrats de mon parquet. Personne n'est aux ordres. Un procureur, il se doit d'être et à la fois courageux et audacieux, et il applique la loi. Il est là pour requérir au nom de la loi.
Premier étage du palais de justice, bureau du juge des enfants. Les parents patientent dans le couloir, les enfants jouent. Ils vont rencontrer Philippe Desloges, le juge.
Donc il y a plusieurs familles qui ont été convoquées ce matin. Quelquefois, il s'agit d'imposer un éducateur parce qu'on espère que ça sera suffisant. Dans bon nombre des cas, c'est suffisant. Mais dans la moitié des cas, malheureusement, les enfants sont retirés de leur famille parce que la situation est trop grave. Il y a beaucoup d'émotions. Ce sont des décisions qui sont très lourdes, humainement.
Une fratrie de 3 petits garçons habitués aux familles d'accueil sort du bureau du juge. Taquin, le plus jeune, se précipite sur le micro des réfis. Sa voix a été modifiée.
C'était pas bien qu'on était voir le juge là-bas. C'était trop nul.
Rendre la justice dans le seul intérêt de l'enfant, Philippe Desloges, la quarantaine, est un magistrat habité par sa fonction.
Alors j'ai appris à parler aux enfants de façon à ce qu'ils me comprennent, permettre aux enfants de pouvoir parler, parce qu'ils sont souvent l'enjeu. Voilà. Et puis il y a aussi une loyauté, sans même que les parents demandent ouvertement à leur enfant de dire ceci ou cela, l'enfant a une loyauté à l'égard de ses parents. Donc c'est difficile pour lui de dire qu'il est mal chez papa ou chez maman. C'est difficile de critiquer papa ou maman. Voilà.
Une justice du quotidien, au plus près de l'intérêt des gens, toute la noblesse du métier. Et dans le couloir, nous retrouvons Sophie Roux, l'avocate de la famille des enfants.
Oui, c'est une justice particulière, puisqu'effectivement, il y a des enjeux importants. Lors des audiences d'assistance éducative, il peut y avoir des enjeux de placement, des placements d'enfants, beaucoup d'émotions pour les familles, pour les enfants, et puis pour tous les participants à la justice. Des larmes, des enfants qui sont tristes, des parents qui sont tristes, effectivement. C'est difficile de préparer des parents à la séparation avec leurs enfants, parce que ça ne se prépare pas. Mais effectivement, notre métier, c'est aussi de les confronter à la réalité et de dire qu'effectivement, c'est l'enjeu qui se joue lors de certaines de ces audiences.
Quelques mètres plus loin, l'audience des affaires familiales, Virginie Pierre, avocate.
Ce matin, ce sont les questions de la résidence des enfants. Donc là, en ce qui me concerne, ce sont des parents qui sont divorcés depuis longtemps et qui reviennent devant le juge aux affaires familiales pour voir statuer sur la résidence des enfants, le droit de visite, les pensions alimentaires, donc vraiment de la justice du quotidien.
Pierre Dupire, juge aux affaires familiales, plus communément appelé le JAF.
Ça fait 3 heures que je suis en audience JAF, où j'écoute, c'est un travail d'écoute pendant... Ces 3 heures, j'ai écouté des couples qui essayent de s'arranger ou de régler des conflits par rapport à des problèmes de garde d'enfants, de pension alimentaire. C'est vraiment les deux points clés. C'est généralement comment s'organiser par rapport à la garde des enfants et financièrement, comment régler les problèmes pour faire en sorte que les enfants s'en sortent le mieux possible. L'audience JAF permet quand même parfois à des parents qui ne se parlent jamais ou qui n'arrivent pas à se parler, par la présence du juge et par la présence des avocats, on arrive à avoir parfois des accords ou des solutions qui se trouvent, ou en tout cas des éléments de réflexion pour eux pour la suite. C'est parfois un élément, un moment déclencheur pour eux. On a un peu un rôle de juge de paix. C'est la fonction que je trouve la plus humaine. C'est pas forcément la plus intéressante techniquement, parce que juridiquement, les questions sont limitées. C'est assez passif dans le rôle du juge, mais c'est, à mon avis, l'essence même du rôle du juge, c'est cette écoute.
Salle des pas perdus, le bâtonnier Emmanuel Kierskowski revêt sa robe.
Alors la robe, on la change jamais, c'est ça, on la garde toute sa carrière. Et plus elle est usée, et plus on est respecté.
Voilà, moi c'est ce que je pense. J'ai pas envie de la changer. Ouais.
Dans tous les boutons qu'on perd, en fait.
On rentre dans son rôle quand on met la robe.
Oui, ça peut paraître folklorique, mais je pense que c'est important pour la solennité de la justice. Hein.
Chef de file d'un barreau d'une centaine d'avocats, il s'apprête à plaider devant l'audience des référés des dossiers urgents.
C'est des audiences de procédure rapide qui ont lieu devant le président du tribunal de grande instance ou un vice-président. Alors on peut, devant le juge des référés... demander un certain nombre de choses qui sont bien précisées par le code de procédure civile. On peut lui demander de prendre des mesures qui sont justifiées par l'urgence ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ou on peut encore lui demander d'ordonner une mesure d'instruction, par exemple. Et une fois que le dossier est plaidé, vous avez une décision généralement 3, 4, 5 semaines plus tard. Donc c'est assez rapide comme procédure. Par rapport à la durée d'une procédure classique devant le tribunal, c'est 5-6 fois plus rapide.
Cécile Capot, chef de la juridiction, préside l'audience. Les référés, que l'on nomme encore justice de l'urgence et de l'évidence.
C'est ainsi que habituellement on désigne la compétence du juge des référés. C'est d'ailleurs un des points qui a été plaidé assez longuement, puisque les demandeurs dans le dossier qui vient d'être évoqué estimaient qu'on était dans ce cas de figure et les défendeurs ont soutenu que ce n'était pas le cas et demandent à ce que je me déclare incompétent. Donc c'est un point que je vais trancher très rapidement dans le cadre du délibéré.
Fin de l'audience pour vous, le dossier a été renvoyé, c'est ça ?
Oui, alors en fait, j'avais plusieurs dossiers hein, et il arrive que aucun des dossiers ne soit retenu. Donc on peut venir pour rien.
Le temps judiciaire n'est pas le nôtre.
Voilà, c'est sûr.
Lorsque les dossiers judiciaires se complexifient, pour les affaires pénales les plus graves, le procureur peut saisir un juge d'instruction. Nous pénétrons dans le bureau de Tina Nonorg.
Moi, je suis rentrée de congé hier. Donc, il y a eu plusieurs détenus dans certaines affaires, notamment de trafic de stupéfiants, il y a une semaine. Donc, ces détenus, tous leurs proches, là, actuellement, demandent des permis de visite. Il y a des courriers qui sont envoyés. Donc, j'ai contrôlé ça. J'ai également eu une demande de mise sous écoute téléphonique d'enquêteur dans un autre dossier. Donc, j'ai également traité cette demande. Et j'ai un interrogatoire à préparer aussi pour cet après-midi.
Instruire à charge et à décharge, procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité, c'est le rôle confié à Tina Nonorg, juge d'instruction.
Il s'agit quand même dans certains dossiers de placer des personnes en détention provisoire, donc avant même leur jugement. Donc oui, c'est extrêmement lourd. et il faut faire extrêmement attention pour éviter les erreurs procédurales. Voilà, je travaille avec une greffière aussi qui est là pour s'assurer avec moi du respect des délais qui sont imposés par la loi. Les avocats aussi qui sont soit commis d'office, soit désignés par les parties, ont leur rôle à jouer pour éviter les erreurs procédurales et peuvent saisir la chambre de l'instruction. Le parquet a aussi un droit de regard sur le dossier. Il est interrogé pour toutes les décisions importantes à chaque phase du dossier, que ce soit pour placer en détention provisoire une personne ou même sous contrôle judiciaire. Pour renvoyer devant le tribunal correctionnel, le parquet donne tout le temps son avis. Et les décisions les plus importantes, notamment les décisions attentatoires aux libertés individuelles, comme le placement en détention provisoire, ce n'est pas le juge d'instruction qui prend la décision, mais c'est le juge des libertés de la détention. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une procédure qui est très, très formaliste, qui est très écrite, avec des délais importants à respecter, des conditions de régularité qui peuvent parfois pénaliser la recherche de la vérité, tellement c'est lourd. Mais c'est l'évolution législative actuelle qui veut ça et on s'y soumet.
De la permanence du parquet au tribunal correctionnel, la chaîne pénale passe nécessairement par le greffe où arrivent les dossiers en attente de jugement sous l'œil scrupuleux de Marie-Renée Gauthier.
On reçoit des dossiers de magistrats qui ont décidé de poursuivre les personnes devant le tribunal correctionnel. En ce moment, on fixe à peu près à 8 à 10 mois de délai. Donc, c'est-à-dire qu'on délivre des convocations en ce moment pour le mois de novembre. Donc on travaille toujours avec une vision assez lointaine de l'organisation de la juridiction, effectivement.
Donc cet après-midi, un renvoi de comparution immédiate.
Mario Talouarn préside la chambre correctionnelle. Elle doit juger ce jour un dossier lié au mouvement de contestation sociale. Un individu a tenu des propos inquiétants sur les réseaux sociaux. Aurélie Fournard assure la défense du prévenu et les charges sont nombreuses.
La première, c'est la provocation à la commission d'atteinte volontaire à l'intégrité physique et aux atteintes aux biens, avec notamment une infraction de provocation aux violences contre les membres de forces de l'ordre et également une autre infraction qui concerne la ministre du Travail et Madame Pénicaud, à savoir des propos qui ont été tenus à son égard puisque la personne a posté une image sur Facebook représentant le supplice de Robert François Damien avec un commentaire « Il faut aller la chercher et l'emmener place de grève ». Donc ça va susciter pas mal de débats en audience correctionnelle. On reproche également à mon client une provocation à un attroupement armé et une détention d'armes qui, du coup, n'est pas contestée. Donc le client est assez anxieux à l'approche de ce procès. C'est un monsieur qui est en invalidité, donc effectivement, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il encourt une peine ferme. Ce sera une relaxe qui sera plaidée pour un certain nombre d'infractions, hormis la détention d'armes qui est reconnue par monsieur.
L'audience va débuter et Michel Pierson, vice-procureur, la représentante du ministère public, s'apprête à requérir dans l'intérêt de la société.
Ça n'est pas rédigé, c'est-à-dire que je prends du recul et j'essaie de voir de quelle manière présenter les choses. C'est tout l'équilibre qu'il y a à tenir compte du contexte actuel de mouvement social, tout en restant concentré sur l'aspect pénal et juridique. Pour expliquer en quoi cette infraction-là est particulièrement grave compte tenu du contexte et des répercussions que ça a actuellement.
Le tribunal.
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Les débats commencent, la défense aura la parole en dernier, puis la présidente Mario Talouarn rendra sa décision, une décision motivée, détaillée, car à ses yeux, juger, c'est comprendre.
Quand on rend des décisions, pour peu qu'elles soient éventuellement un peu techniques, je prends toujours du temps pour pouvoir l'expliquer. Donc très généralement, que ce soit côté défense ou côté victime, on m'écoute. Dans mon tribunal, dans mes audiences, je pense que les justiciables ne repartent pas de la salle d'audience sans avoir compris la décision en elle-même et les raisons pour lesquelles on l'a prise.
Le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, un reportage de Franck Alexandre réalisé par Françoise Grelot.